Les gens vous parlent toujours aujourd'hui des fake news. On vous dit, oh là là, 75 millions de types qui ont voté pour Trump parce qu'ils étaient trompés par les fake news. Moi j'ai essayé de dire, moi, j'avais écrit un petit texte sur ce sujet. Non, c'est pas, ils n'ont pas été trompés, ils avaient envie d'entendre ça, quoi. Et donc, au fond, la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? C'est ça le fond du problème, quoi.
Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Matrioshka. Alors, qu'avons-nous envie d'entendre aujourd'hui? Eh bien, Jacques Rancière, de toute évidence. Ce grand philosophe a travaillé toute sa vie sur la politique, sur la question démocratique, sur son esthétique, sur son spectacle. Spectacle duquel nous sommes tous des spectateurs émancipés, dit-il, mais de son point de vue, sans avoir vraiment voix au chapitre. Eh bien, dans Matrioshka, sa pensée, influencée par mai 68, entre autres, et les luttes d'émancipation, mais aussi qui a analysé l'évolution de nos idées, de nos croyances pendant des décennies, eh bien, elle nous intéresse tout particulièrement. Et oui, aujourd'hui, alors que les rapports de domination sont décriés, que ce soit de race, de genre, d'espèce ou autre, alors que nous sommes à la veille d'élections présidentielles, alors que le système démocratique est tout de même assez essoufflé, que les citoyens se disent démotivés, que les internautes se montrent en colère. Mais qu'exprimeront les électeurs? C'est la question que tout le monde peut se poser aujourd'hui, mais pas Jacques Rancière. Pour lui, l'essentiel n'est pas là.
Tant qu'on pense que l'événement essentiel de la vie d'un pays, c'est d'élire un président de la République, ben on est perdu. La première chose, c'est qu'il ne faudrait pas de président. On a l'idée, c'est formidable, tout le monde élit le président de la République, donc c'est une manifestation vraiment suprême de la démocratie, ainsi de suite. Non, je dirais que la démonstration, disons, l'égalité, c'est quand les gens peuvent agir, les gens peuvent agir ensemble en tant qu'égaux, quoi. Or, disons, on n'agit pas ensemble en tant qu'égaux lorsqu'on décide qu'on va mettre un type tout en haut et que c'est lui qui va décider de tout. Donc je dirais la première chose, c'est quand même d'apprendre conscience que la présidence de la République, élue, ça s'était inventé en 1848, par les monarchistes, précisément contre la démocratie, contre cette espèce d'anarchie comme ça, révolutionnaire. Ils ont inventé ça, qui dit ça va faire un contrepoids idéal à toute cette espèce d'agitation populaire malsaine, de clubs et compagnie. Bon, ils pensaient que ça allait ramener la monarchie. Bon, ils se sont trompés, quoi. Le président élu pensait que c'était encore mieux qu'il soit lui-même empereur, quoi. Mais fondamentalement, c'est une institution qui est absolument monarchique et absolument antidémocratique. Ce qui est démocratique, c'est que effectivement les gens puissent faire eux-mêmes directement le maximum de choses directement en s'unissant ensemble.
Quelle alternative?
Malheureusement, l'alternative, c'est que puissent se créer des mouvements politiques assez forts pour dire la politique, c'est pas d'élire un président de la République. La politique, c'est d'essayer de faire des choses directement ensemble. C'est bien ça qui était un petit peu dans tous ces mouvements, justement, du style Occupy, Nuit debout, et tout ça est parti en quenouille, d'accord. Ouais. Mais voilà, je dirais que.
Mais en même temps, c'est la.
Je pense qu'on ne peut partir que de mouvements qui, si peu que ce soit, ont ébranlé le système établi. Le fin 19e siècle, on peut dire qu'un parti politique menait des campagnes pour la justice, pour l'égalité sociale, pour la reconnaissance des droits des gens qui n'avaient pas de droits, quoi. Aujourd'hui, on a effectivement des machines créées pour faire élire des personnes. Et puis on a des petits groupes qui veulent faire savoir qu'ils existent encore, qui savent très bien qu'ils ne seront pas élus président de la République, mais qui se disent, c'est l'occasion de faire un peu de publicité pour la boutique, quoi. Et voilà, je crois qu'on en est là, donc malheureusement, je crois qu'il faut, il faut pas se demander ce qu'on attend d'un président, non, on n'a rien à en attendre.
Et alors quel modèle on pourrait envisager? Une autre institution, comment
J'ai longtemps rappelé que la démocratie au départ c'était le tirage au sort et pas l'élection, quoi, que l'élection était en fait une procédure aristocratique. Mais en même temps, je dirais que c'est pas si on déclare voilà le tirage au sort du jour au lendemain que tout va s'arranger. Je pense que toute institution qu'on peut proposer a un sens au sein d'un mouvement qui crée quelque chose plutôt comme des contre-institutions, quoi. La pire des choses, c'est que le pouvoir soit occupé par les gens qui veulent le pouvoir. C'était déjà même l'idée de Platon. Et Platon était vieux, il n'était pas démocrate, mais son idée, c'est que les pouvoirs sont occupés par des gens qui ont envie du pouvoir, qui ont besoin du pouvoir, qui se servent du pouvoir. Pour lui, effectivement, le moyen, c'était que ce soit les sages, en quelque sorte, qui aient le pouvoir. Les solutions sont quand même, malgré tout, alors si on part au niveau purement institutionnel, donc on ait effectivement des institutions, des assemblées qui soient non renouvelables, des mandats qui soient non cumulables, qu'on ait toute une part donnée effectivement, au tirage au sort.
Oui, parce que vous citez Occupy, vous citez Nuit Debout, vous ne citez pas les Gilets jaunes, par exemple. D'une certaine façon, on pourrait penser que ça a eu un petit peu plus d'écho encore dans la population, mais in fine, ça a reproduit encore une volonté d'avoir parmi eux des porte-paroles, des représentants. Alors, je ne vais pas avoir l'impression que c'est comme la ferme des animaux d'Orwell, mais d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à l'homme et qui fait qu'in fine, on reproduit quand même toujours un rapport de dominant et de dominé ?
Tous ces mouvements, c'est qu'effectivement, bon, ils ont mis des choses sur la table qui sont importantes, quoi. Et en même temps, ils n'ont pas pu, disons, bon, se développer suffisamment. Ce qui veut dire quoi, en gros, c'est que malgré tout, on est dans un monde où le consentement à la domination est plus fort que les tentatives pour lutter contre cette domination. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour l'instant, il faut bien constater que ce sont des efforts qui restent minoritaires, quoi. Bon.
Tout l'enjeu, selon Jacques Rancière, est donc de penser le politique autrement, avec quelques exemples. Préférer le tirage au sort à l'élection, qu'il dit aristocratique, faire que ce soit des gens qui ne souhaitent pas le pouvoir qui soient au pouvoir, ou faire qu'un mandat ne soit pas renouvelable. Quelques exemples qu'il nous a cités il y a un instant, mais ce qu'il dit, c'est qu'un président, qui qu'il soit, élu aujourd'hui, eh bien il ne peut rien. En fait, selon Jacques Rancière, ce qu'il faut, c'est arriver à se libérer d'une sorte de conditionnement d'une certaine façon. Il dit que nous sommes tous logés dans un monde. Explication tout de suite sur notre capacité à y être plus ou moins libre.
Chaque geste qu'on fait, chaque mot qu'on dit, la manière dont on parle, la manière dont on s'adresse à quelqu'un, ça construit un monde possible. Qu'est-ce que c'est qu'un monde ? Un monde, finalement, bon, ben c'est quelque chose qui met des gens en communauté. Et bon, il y a quoi qui est tissé ? Ben de paroles, de gestes, d'images, de textes, de sons, de toutes sortes d'expériences. Voilà, donc j'ai mon idée, si vous voulez, qu'un monde, c'est pas comme ça quelque chose qui vous est donné, quoi, que, au fond, disons, il y a un sens, ce que nous appelons le monde contient une pluralité de mondes, qui sont des mondes possibles ou des mondes réels. Bon, bah, tout ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est mon travail que j'ai fait longtemps sur l'émancipation ouvrière, c'est-à-dire sur la façon dont, bon, des gens qui étaient au fond logés dans un monde, quoi, ils étaient dans un monde, le monde du travail. Le monde du travail, bah, c'est un monde où on travaille, on est comme ça un peu costaud, où on parle un peu grossièrement, et puis voilà, puis je suis tombé dans mon travail historique sur des gens qui étaient pas tellement costauds, qui parlaient de manière un peu trop raffinée pour leur classe, qui disaient des choses qu'ils n'étaient pas censés dire, voilà, et c'est. Et après ça, bon, j'ai beaucoup travaillé sur donc cette espèce de pédagogue ou antipédagogue un peu extravagant qui s'appelait Joseph Jacotot, qui vivait au 19e siècle, quoi, et qui vous explique on vit dans un monde qui est celui de l'inégalité, mais qu'en même temps, on peut toujours y construire à tout moment, en quelque sorte, des tracés d'égalité.
Vous dites qu'il faut un petit peu changer l'espace de transmission ou les méthodes de transmission au travers de ce qui se passe en ce moment, le fait que chacun ait l'impression de pouvoir s'exprimer. De pouvoir apprendre ce qu'il a envie d'apprendre, que les savoirs sont beaucoup plus à disposition de tous. In fine, il y a quand même une sorte de cacophonie aujourd'hui, de désorganisation. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui sur cet équilibre-là ?
Je crois que on est dans un monde qui est balisé par des savoirs. Quand j'étais jeune, vous achetiez un livre de poche, bon ben voilà, il y avait un texte dedans, il y avait éventuellement un académicien Goncourt qui faisait deux trois pages pour vous situer les choses, et puis c'était tout, quoi. Maintenant, vous achetez un livre de poche, vous avez 30 ou 40 pages de notes qui vous expliquent.
Mais ça produit quoi, ça ?
C'est-à-dire que le fait, c'est pas vrai que tout est à disposition. D'une certaine façon, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, au fond, chaque chose, chaque événement s'annonce vraiment, disons, presque c'est en quelque sorte accompagné de sa signification. Pour chaque information qu'on vous donne, on fait venir un expert. Et par conséquent, disons, chaque chose qu'on vous dit, au fond, vous est donné déjà, bon, mâché, interprété, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, il y a du savoir partout, en même temps, vous êtes un ignorant total, puisque à chaque instant, on s'adresse à vous comme quelqu'un qui ne comprend pas.
Ne vous augmente pas? Le fait de vouloir insuffler du sens à tout, ça ne vous augmente pas, c'est ça que vous dites?
Je pense que il y a une espèce de perte, en quelque sorte, d'un rapport libre aux choses, aux événements, aux textes et aux images. Alors, après tout, disons, ne pas savoir exactement ce que veut dire un mot, ce que veut dire une phrase, ça veut dire que vous allez la faire vivre à votre manière. Ça veut dire que vous allez faire tout un travail d'imagination. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qui est complètement perdu, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, quelquefois c'est bien d'avoir du savoir à côté, quoi, mais en même temps, quand l'accès à toute chose, à tout événement, à toute production de mots, d'images, est comme ça complètement accompagné par une interprétation, enfin une interprétation autoritaire, quoi, c'est un appauvrissement.
Parce qu'en fait, ça oriente trop et ça empêche de développer les imaginaires de chacun.
C'est-à-dire que ça empêche d'avoir accès, je dirais, un petit peu à la singularité, finalement, des choses, des événements, des textes, des images, ce qui, je crois, est une chose extrêmement importante. Bon, la forme normale de transmission, c'est que précisément, il y a quand même, on vit dans un, on doit, ou ça c'est bien de vivre dans un monde qui est un peu un monde de bouteilles à la mer, quoi. C'est-à-dire que bon, vous ramassez des bouteilles à la mer, et puis voilà, c'est des bouteilles à la mer, qui l'a lancé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est ça qui est un peu votre travail, d'une certaine façon. Là, moi, je conçois un peu la transmission aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que j'écris des livres, après ça les gens en font ce qu'ils veulent.
Ça c'est particulièrement intéressant pour nous dans Matrioshka, parce que ce que dit Jacques Rancière, c'est que transmettre, c'est aussi laisser beaucoup plus de place à celui qui reçoit, à chacun de savoir ce qu'il veut, et si chacun a envie de s'approprier une certaine forme de savoir, eh bien il pourra à sa façon ouvrir son propre imaginaire. Alors, si on est à l'écoute de la pensée de Jacques Rancière, qui a beaucoup travaillé sur notre temps, sur nos temps, eh bien, on peut entendre que vouloir avant tout guider, ça peut peut-être fixer un cap, mais ce n'est en rien cela qui permettra d'ouvrir notre avenir. On l'écoute.
Je pense qu'on est dans un temps qui est un temps sans avenir, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on est à la fin du monde, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais moi, j'ai grandi dans un temps qui était un temps qui était, effectivement, qui était un temps, je dirais, de... Où il y avait des futurs, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y avait quand même une vision de l'histoire qui était la vision marxiste, qui disait que tout ce qu'on vivait avait un sens, était orienté, que actuellement on était dominé par le pouvoir capitaliste, mais que ce pouvoir lui-même créait les conditions de son propre effondrement, de sa propre ruine, donc la bourgeoisie sera sa propre fossoyeuse, enfin, bon, c'est des formules comme ça, quoi. Donc voilà, on vivait dans un temps qui était un temps orienté, quoi.
Ouais, ouais.
Maintenant on est un peu dans la caricature, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit, toujours, oui, il y a une espèce de nécessité, on ne peut pas y échapper, on peut pas aller contre son temps. On nous montre un monde qui est allant vers une fin donnée, mais se reproduisant toujours au bord du gouffre. Alors le gouffre, ça peut être crise économique, crise financière, ça peut être terrorisme islamiste, ça peut être pandémie, tout ce qu'on veut. Mais on est un peu dans ce type de monde-là, quoi. Et alors le seul monde avec avenir qu'on nous montre, c'est précisément un monde qui va s'effondrer. Genre effectivement, bon, la planète va s'est fichue dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, quoi. Voilà, je crois qu'on est un peu dans ce temps-là, un temps avec un peu des gestionnaires du présent et puis un peu des prophètes de la catastrophe, quoi.
Quand vous dites un présent sans avenir, c'est parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer, l'avenir, ou... Expliquez-moi.
Parce qu'il n'y a pas effectivement de but vers lequel on se tend. Effectivement, la catastrophe aura pris sa place. Mais qu'est-ce que c'est que la catastrophe? La catastrophe, c'est... voilà, on n'a plus le choix, quoi. Je dirais qu'un temps, disons, il y a de la dynamique dans le temps lorsqu'il y a des temps qui s'opposent. Lorsqu'on vous dit, voilà, bah, lorsque le gouvernement, les médias vous disent, bah, voilà, il faut faire ça ici et ça, c'est la seule nécessité. Puis lorsqu'il y a des gens qui disent, non, c'est pas la seule nécessité, on peut construire d'autres temps. Et effectivement, j'ai grandi dans cet univers où il y avait plusieurs temporalités qui s'affrontaient, quoi. Le problème avec la pensée de la catastrophe, c'est que ça revient en quelque sorte, d'une certaine façon, au même que le temps officiel. À savoir, on vous dit, voilà, si on ne fait pas ça, c'est fichu, on est mort, quoi. On est mort, la planète est morte, la planète est détruite, et ainsi de suite. Et bon, je dirais, à la fois, il faut tenir compte de ces menaces, et en même temps, je ne pense pas qu'on invente du temps, si vous voulez, sous la pression de la menace, quoi. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on construise véritablement quelque chose d'intéressant avec de la peur, quoi.
Comment on construirait quelque chose d'intéressant dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui ?
Ce que j'ai toujours essayé de faire, mais de façon tout à fait modeste, quoi, c'est d'essayer de construire un temps différent, c'est-à-dire un temps qui soit un temps, disons, un temps de l'égalité, quoi, un temps en quelque sorte précisément où il y ait de la liberté, voilà, où les phrases, les textes, les idées, les images, tout ça circule de telle manière que n'importe qui puisse s'en emparer, que n'importe qui puisse vraiment créer quelque sorte comme des trajectoires qui soient inédites, qui soient inattendues, quoi.
Par exemple, il y a quoi comme genre d'émergence qui pourrait être auquel on pourrait se référer d'une certaine façon?
Nuit debout, ça me parlait, parce que moi j'avais écrit un livre qui s'appelait La nuit des prolétaires, quoi. C'était un livre justement sur des gens qui, normalement, travaillaient le jour et puis dormaient la nuit, ouais. Et puis ça recommençait le lendemain, quoi, et puis qui utilisent leur nuit pour autre chose que qu'utilisent leur nuit pour penser, pour écrire, pour lire, pour se réunir, et ainsi de suite, quoi. Nuit debout, ça avait, pour moi, c'était comme une espèce de résurgence de ça, c'est-à-dire, ouais. Tout d'un coup, il y a une espèce d'ordre des temps qui est brouillé, quoi. Les gens disent, la nuit, c'est pour être debout, la nuit, c'est pas pour être chacun chez soi à dormir, c'est pour être ensemble. On construit une temporalité qui est différente.
On serait donc dans un temps guidé par la catastrophe, étouffé par son présent, et il y oppose, lui, un temps qui serait un temps de l'égalité et qui nous permettrait de prendre le temps de penser. Et selon Jacques Rancière, ce qui est important, c'est de pouvoir envisager de penser autrement le monde. D'ailleurs, ce qu'il dit aussi, c'est que le monde est fait d'apparence, et ça, c'est important dans sa pensée. Il dit être totalement opposé à cette idée d'aller toujours chercher ce qu'il y a derrière. Ce serait ça, finalement, la source d'un des maux de notre société, le complotisme. On l'écoute.
La réalité, elle apparaît jamais derrière les apparences, quoi. Quand on a enlevé les apparences, il ne reste plus grand-chose, quoi. La scène politique, c'est l'organisation, ce qu'on appelle scène politique, peu importe, c'est l'organisation de tout un ensemble d'apparences, quoi. Bon, il y a des gens qu'on voit paraître, à la télévision, dans les journaux, qui disent certaines choses, qui font certains gestes, qui tiennent certains discours, et puis, il y a des gens dans la rue qui s'assemblent autrement, qui créent une autre scène d'apparence.
Comme une scène de spectacle, quoi.
Oui, on critique le spectacle, mais je dirais que il y a quelque chose de complètement ambigu dans la critique du spectacle qui renvoie toujours à l'idée qu'il y aurait une espèce de vraie réalité derrière. Moi j'ai été élevé dans dans cette espèce de vision marxiste que font que chaque chose cache quelque chose qui est derrière, quoi.
Et en fait, non.
Enfin, le problème, je dirais qu'à la longue, on se rend compte que l'idée qu'il y a toujours une chose derrière, ça conduit à quoi ? Ça conduit au complotisme, quoi, finalement. D'une certaine façon, le complotisme est l'achèvement de toute une pensée qui vous dit que ce qui apparaît, il faut s'en méfier, c'est pas ça, etc. Il faut creuser derrière, voilà.
Cette idée de complotisme dont vous parlez souvent, on dit pour lutter contre le complotisme, il faut imposer la vérité.
On n'impose rien d'abord, premièrement, mais ce qu'on propose plutôt, c'est des procédures de vérification. C'est-à-dire qu'il y a des procédures quand même de vérification, disons, du fait que l'Holocauste existe. Bon, voilà, quoi, disons qu'on peut quand même, qui sont suffisantes, mais dont on voit bien qu'elles ne seront jamais suffisantes pour faire taire le négationniste, parce qu'à partir du moment où vous voulez nier quelque chose, vous aurez toujours les moyens de nier, quoi. De même que pour être complotiste, vous aurez toujours les moyens de trouver un complot. Pourquoi ? Parce que il y a toujours les moyens de nier quelque chose, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de précisément de d'opposer à ça une culture de la vérification qui sait qu'il n'y a jamais de vérité définitive, mais qu'il y a effectivement des possibilités de vérifier, de dire des choses. Bon, si on est honnête, bon, si on a envie de tout nier, si on a envie de dire toujours le contraire de ce qui est, on peut rien contre vous, quoi.
Par rapport au temps politique actuel, quand on a une figure, par exemple, comme celle de Éric Zemmour qui paraît, est-ce que pour vous c'est un symptôme, un syndrome, ça raconte quelque chose ou ça fait partie Est-ce que c'est un événement, c'est pas un événement?
C'est sûrement un symptôme parce que, en même temps, le symptôme de quelque chose qu'on voyait bien depuis un certain temps, quoi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a fait croire précisément que bon, l'extrême droite, c'était un peu des derrière-rêves, voilà, du genre des ouvriers qui avaient perdu leur place, des gens qui étaient comme ça chômeurs, des classes en décomposition et ainsi de suite. Alors qu'on voyait bien quand même tous les jours que toutes ces attitudes d'extrême droite, elles gagnaient constamment dans le monde des gens bien nés, bien informés. Voilà. Zemmour, c'est le symptôme du fait que font toutes ces espèces de pulsions de haine, d'exclusion, d'illusion de supériorité, et de désir de stigmatiser, d'exclure, c'est pas du tout un truc, comme on l'a dit, populiste, etc., lié vraiment aux couches de la population en perdition. Non, c'est quelque chose qui est vraiment lié, on peut dire, aux gens qui sont puissants aujourd'hui. Par conséquent, voilà, il y a eu effectivement une espèce d'extension, je dirais, dans la classe dominante, dans son intelligentsia, toute une série vraiment de formes d'intolérance, de haine, de racisme, etc. qu'on disait toujours réservé un peu aux petites gens, un peu mal instruits, quoi. Non, c'est pas du tout ça, quoi.
C'est la classe, le mouvement qu'on voit.
C'est la classe dite éclairée, quoi. Qui maintenant colporte directement toutes ces idéologies et toutes ces attitudes.
L'extrémisation et la haine de l'autre ne seraient pas, comme on peut le dire très régulièrement, le fait du populisme, mais au contraire, selon Jacques Rancière, le produit d'une classe éclairée qui gangrène. Mais alors, au-delà de cette classe, qui est vraiment si éclairée aujourd'hui? Tout le sujet est là. On a tous l'impression d'être un petit peu plus futé, un peu mieux informé, de mieux saisir les enjeux que son voisin. Jacques Rancière analyse tout de suite pour nous ces nouveaux clans de crétins et de malins, ou vice-versa.
Tous les gens qui ont voté pour Trump, qui se sont battus pour Trump, c'est pas des crétins qui ont été trompés parce que... Non, c'est des gens qui, au fond, qui étaient contents précisément de montrer là qu'ils étaient des malins, qu'ils étaient plus malins que les autres, qu'ils étaient plus forts que les autres. Et voilà, donc il faut essayer de lutter, au fond, contre l'idée de l'intelligence qui pense qu'on est intelligent et les autres sont bêtes, quoi. C'est ça le fond du problème, quoi.
Et au fond, expliquez-moi plus ça, parce que alors, je suis pas assez intelligente pour le comprendre du premier coup, mais je suis sûre qu'on touche un truc.
Cette idée de l'égalité des intelligences, donc... Ouais. Emprunté donc à Joseph Jacotot, il y a ça fondamentalement, l'idée qu'on est intelligent par l'intelligence qu'on suppose chez les autres. C'est-à-dire que, disons, il y a une forme d'intelligence égale, quoi. C'est-à-dire qu'il suppose qu'on s'adresse à des égaux dans un monde où on suppose que toutes les intelligences possèdent une semblable capacité, quoi. Une semblable capacité, voilà.
Alors, bon, donc c'est une affaire de respect.
C'est une affaire de respect, mais pas de respect au sens seulement de je vous tire mon chapeau, quoi.
C'est-à-dire je parle
à des égaux, quoi.
Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de fondamental. Et fondamental qui, en même temps, qui est toujours à réinventer, parce que parler à des égaux quand on parle à des gens effectivement qui sont vos élèves, c'est pas évident, quoi. Il y a toujours au fond comme des espèces d'équilibre à rétablir, quoi. Bon, j'écris un livre, j'ai étudié 5 ans, 10 ans un truc, bon, effectivement, j'en sais plus sur cette chose que ceux qui ont passé 0 jour, quoi. Et en même temps, je dirais, l'important, c'est que j'en parle comme à des gens qui peuvent immédiatement s'emparer de ce que je dis.
Et est-ce que ça ne va pas plutôt dans un sens intéressant, ce qui se produit en ce moment? Je ne sais pas comment vous l'analysez, mais d'une certaine façon, les rapports de domination sont un peu chatouillés. Que ce soit les rapports de domination, je vais dire homme-femme, blanc-noir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se jouer, justement? Il y en a qui disent que c'est une ère victimaire qui crie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du rapport à l'égalité qui se joue là?
Il y a quelque chose, oui, du rapport à l'égalité qui se joue là, Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est contesté d'une manière extrêmement violente, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous prenez la question des rapports hommes-femmes, on voit bien que, il y a tout un tas de gens qui peuvent être farouchement féministes quand il s'agit des musulmans, mais quand il s'agit de leur monde à eux, lorsqu'il s'agit de savoir ce que peut faire un metteur en scène avec une adolescente, à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose. Il y a des enjeux d'égalité qui sont très forts, mais qu'en même temps, je dirais, on voit bien en même temps qu'ils sont... Il faut justement un petit peu essayer d'aider à construire le monde dans lequel ce soit entendu, quoi. Dans lequel effectivement le fait qu'on pense que c'est pas absolument normal qu'il faille coucher avec le metteur en scène pour avoir un rôle, quoi, c'est quelque chose qui touche au rapport homme-femme, quoi, mais qui touche plus profondément à l'importance qu'on donne aux choses, à l'importance qu'on donne aux gens qui vivent ces choses, et ainsi de suite.
C'est-à-dire mais on sent quand même un mouvement de fond.
Il faut bien voir que chaque mouvement d'égalité peut s'accompagner, si vous voulez, au fond aussi de pensée inégalitaire, quoi. Ce que j'appelle l'égalité intellectuelle, c'est la capacité, je dirais, un petit peu d'intégrer un petit peu tous ces niveaux, quoi. C'est-à-dire d'essayer de penser une égalité qui est valable pour tout le monde, donc qui n'est pas simplement conditionnée par le fait que on peut pas attendre la même chose d'une femme que d'un homme, d'un musulman que d'un laïc, ou ainsi de suite, quoi. Je crois qu'il faut encore une fois rétablir tellement d'équilibre, si vous voulez, que c'est un exercice permanent.
Jacques Rancière, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne ou que mes enfants retiennent de ce que vous souhaiteriez transmettre ?
J'aimerais qu'ils retiennent, le désir d'aller toujours chercher plus loin, quoi, vérifier plus loin, attendre avant de juger, ne jamais penser qu'ils savent, quoi. Donc effectivement, avoir toujours la position de l'ignorance, c'est-à-dire celui qui sait qu'il a encore une multitude de choses à apprendre et qui n'a jamais à prendre la position de celui qui sait.
Et vous leur donnez de l'espoir ? Quand vous dites qu'il n'y a pas d'avenir, vous leur dites quoi ?
On ne vit plus dans un temps orienté, c'est ça que ça veut dire, quoi. Maintenant, ils peuvent inventer des avenirs, quoi. Ça, c'est pas du tout impossible. Ils ont le désir de vivre dans un monde qui soit meilleur, qui soit moins injuste. Je pense qu'ils peuvent très bien inventer des choses, oui.
Vous y croyez ?
J'ai pas besoin d'y croire. Enfin, je pense que ont certainement envie. Le problème, c'est que ces envies ne soient pas tuées par une raison des choses qui disent que c'est très sympathique, on aimerait bien que tout soit mieux, qu'on vive heureux, égaux, dans un monde où on partage les richesses, où on fasse attention, à la nature et tout ça. J'aimerais qu'ils puissent éventuellement s'avancer dans cette voie sans qu'on leur dise mais pauvres, vous êtes vraiment restés des gosses, quoi, et vous resterez toujours.
Rester dans la position de l'ignorant, merci Jacques Rancière, c'est peut-être ça qui nous permettra de réorganiser autrement le monde pour les générations futures et peut-être de rétablir des équilibres. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé votre temps, c'était un honneur quand même d'avoir Jacques Rancière dans Matrioshka. Et puis surtout merci à chacun de vous qui nous suivez d'entretien en interview, d'épisode en épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner, à vous abonner, à nous regarder, à partager, à commenter. On en est absolument ravis et sachez qu'on va continuer. Alors si vous avez des intervenants dont vous auriez envie d'entendre la pensée, eh bien n'hésitez pas à nous dire. Et comme on l'a déjà fait, eh bien on les invitera et on partagera avec vous notre entretien. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain Matrioshka et je vous embrasse. Salut. Matrioshka.